Bonjour Noé.
Bonjour Corentine, bonjour à tous.
Le feu tout près de l'hôpital Henri Mondor à Créteil.
Incendie qui a fait un mort, 8 blessés. Des habitants de cet immeuble de 10 étages témoignent dans ce journal. Nous faisons également le point sur les relogements. Une magistrate cambriolée chez elle, son matériel informatique dérobé. L'adresse des juges est désormais sur Internet depuis une nouvelle loi très récente. C'est ce que nous explique Sylvie Charbonnier. Une sorte de balle avec des plumes roses. C'est le plume foot. La Coupe du Monde se tient dans le Val d'Oise. Présentation de ce sport d'origine asiatique dans un instant. Et puis le soleil est toujours là cet après-midi. La météo à la fin du journal de France Bleu Paris. Certains sont donc passés de balcon en balcon pour fuir les flammes. Un incendie a donc fait un mort, 8 blessés à Créteil hier soir. Il était 23h quand les flammes ont ravagé les étages supérieurs d'un immeuble juste à côté de l'hôpital Henri Mondor. Une centaine de pompiers a été envoyée sur place. Le feu était éteint vers 1h30 du matin, Jérôme Jadot.
Dans le hall de l'hôpital, à 200 mètres du bâtiment, à la haute façade calcinée, des sinistrés emmitouflés dans des couvertures de survie, certains en pleurs, d'autres hébétés. Christophe habite au 10e étage de l'immeuble incendié. Il allait se mettre au lit quand il a senti une odeur de brûlé.
À ce moment-là, on panique, on appelle les pompiers, on ouvre la porte, on voit qu'on ne peut pas sortir par la porte, donc on passe par le balcon et... J'étais avec mon fils de 12 ans et ma femme. Et on est passé de balcon en balcon. On se dit qu'on va mourir à ce moment-là.
Christophe et sa famille sont ensuite évacués par les pompiers, comme une cinquantaine d'autres résidents. Une femme est, elle, retrouvée morte dans l'ascenseur. Selon les secouristes, le feu aurait pris au 6e étage. Martin Hirsch dirige l'assistance publique Hôpitaux de Paris.
On ne sait pas dire ce qui a déclenché dans un immeuble pour lequel on n'a pas d'alerte particulière, qui était un immeuble conforme, pour lequel il y avait une visite de sécurité incendie qui n'avait pas montré d'anomalie. On verra s'il y a d'autres éléments et puis l'enquête se fera.
Malgré la violence de l'incendie, l'hôpital a continué de fonctionner. Seules les urgences ont été réorientées. Une partie des sinistrés est provisoirement hébergée dans l'établissement de soins.
Jérôme Jadot à Créteil pour France Bleu Paris. Alors justement, que se passe-t-il après cet incendie? Que sait-on et que deviennent les habitants évacués de cet immeuble de 10 étages collé donc à l'hôpital Henri Mondor, Kathleen Comte?
Eh bien, d'après la mairie de Créteil et la PHP que j'ai eue ce matin au téléphone, certains habitants ont déjà pu rentrer chez eux, car sur les 3 cages d'escalier touchées, 2 sont toujours accessibles. En revanche, c'est pour la 3e que c'est plus compliqué. Les habitants qui doivent l'emprunter pour regagner leurs logements sont, eux, bloqués pour l'instant. Difficile pour le moment de dire combien de personnes sont concernées précisément. Les pompiers sont actuellement en train de dresser un inventaire des familles à reloger. On ne sait pas non plus combien de temps tous ces désagréments vont durer. Une étude des solutions de relogement possibles est en cours. On devrait en savoir plus en fin de journée. De son côté, la mairie se tient prête. 5 studios meublés sont d'ores et déjà disponibles, mais la ville ne travaille pas seule sur ce dossier. La préfecture de Créteil et l'hôpital Henri Mondor seront également sollicités, car l'immeuble qui a brûlé cette nuit appartient bien à la PHP. Enfin, concernant les causes de l'incendie, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Une enquête est en cours.
Merci Kathleen. Cet immeuble donc héberge bien des bureaux, des logements. Ce sont majoritairement les personnels de l'hôpital qui vivent dedans. Les images de l'incendie et de l'intervention des pompiers est à retrouver sur notre site francebleuparis.fr. Il est soupçonné d'avoir tué avec une arme à feu un serveur à Noisy-le-Grand, un suspect arrêté après 5 jours de cavale dans un appartement de Champigny dans le Val-de-Marne hier. Il serait âgé de 34 ans, connu de la police pour trafic de stupéfiants et violence avec armes notamment. Le serveur du fast-food a donc été tué vendredi soir dernier. Il était âgé de 28 ans. La police recherche toujours la quinzaine d'individus qui a attaqué le tournage d'un clip de Booba. Des assaillants munis de battes de baseball et d'armes à feu. D'ailleurs, un proche du rappeur, connu sous le nom de Hibou, a été blessé par balle lors de cette attaque. C'était dans la nuit de mardi à mercredi à Aulnay-sous-Bois, dans une zone industrielle sans autorisation de tournage. France Bleu Paris, midi 4. Les maires se plaignent d'être agressés, que ce soit physiquement, verbalement, les policiers, les pompiers. Mais il y a aussi les magistrats. La présidente de la cour d'appel de Versailles avait été violemment attaquée. C'était chez elle en juin dernier. Là, il s'agit d'un cambriolage au domicile d'une magistrate. Il a eu lieu à Paris avant-hier. Tout son matériel informatique a été dérobé. Les syndicats de magistrats s'inquiètent des conséquences d'une loi très récente. Elle date de mars dernier. Elle permet de dévoiler les noms des juges sur Internet, Sylvie Charbonnier.
Oui, alors exemple d'une situation concrète dénoncée par certains syndicats. Une juge auditionne un prévenu impliqué dans une affaire de terrorisme. Les policiers présents sont là anonymement, En revanche, son nom à elle, la magistrate, s'étale pleine ligne en bas du procès-verbal. Et ce n'est pas tout. Sachant que progressivement, les décisions de justice sont mises à disposition du public sur Internet, en open data, eh bien pas trop difficile pour un justiciable mécontent d'un jugement rendu et bien motivé de retrouver le nom du juge et par extension ses coordonnées. C'est en tout cas ce qui inquiète l'Union syndicale des magistrats qui alerte justement sur les conséquences possibles de la mise en open data des décisions et qui réclame que le nom des juges n'y figure plus. Une requête qui ne fait pas l'unanimité puisqu'un autre syndicat, le syndicat de la magistrature, plus orienté à gauche, estime que malgré les risques, l'accès au nom des juges fait partie de la transparence due à tous les citoyens.
Sylvie Charbonnier pour France Bleu Paris. C'est parti pour la Coupe du Monde de... Plume Foot, ça se passe chez nous, dans le Val d'Oise, à Aubonne. Tout est dans le titre, hein. Ça ressemble un peu au foot, mais avec des plumes. Le Plume Foot, c'est un sport d'origine asiatique, avec une balle très originale, Nicolas Fillon.
Déjà, le Plume Foot, ça se joue avec un objet rose un peu particulier. Pour faire simple, selon Charlie, président du club de Puteaux et membre de l'équipe de France, c'est...
Une base ronde et des plumes qui montent vers le haut de 10 cm, donc lesté qui réagit un peu comme un volant de badminton, ou imaginez une pièce dans un mouchoir.
Le principe du Plume Foot...
Ça consiste à faire tomber le volant dans la surface adverse. Faut savoir qu'on joue donc sur un terrain de badminton avec un filet rehaussé de 10 cm. On a le droit en simple à 2 touches par personne.
Et on se sert de toutes les parties du corps, notamment les pieds, sauf les bras et les mains.
On utilise notre corps quasiment à notre plein potentiel.
Étienne, champion de France de plume foot.
Quand on doit faire des sauts pour attaquer, quand on doit défendre, de savoir lire les trajectoires de balles, comment on se place, comment on se déplace sur le terrain, à l'image un peu du volet où ils font ça avec les bras, nous c'est avec les pieds.
Ce qui donne lieu à des gestes assez spectaculaires quand on sait que le filet est dressé à 1,60 m du sol, notamment au moment de marquer le point, il faut des adducteurs de compétition.
On a deux types d'attaques, on peut les taper avec le coup du pied en bicyclette, ou alors on peut les taper de face, qu'on appelle le smash. Ça va demander de la